BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission. Nous avions reçu la semaine dernière l'association Solidarité Partage, présentée par Marius Besson et Myriam Belay. Et cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir une nouvelle association. Il s'agit de J'existe, présentée par Mamas Bouachra, Sophie Chaïd et Sonia Laplace. Alors bonjour mesdames, comment allez-vous déjà?
Bonjour.
Bonjour.
Très bien.
Ça va. Alors
on va commencer par se présenter. Présentez-vous, qui êtes-vous pour nos auditeurs dans cette association?
Alors moi, c'est Mamas Bouachra, je suis présidente de l'association et maman d'un enfant autiste de 11 ans.
Donc moi, je suis Sophie Chaïd, je suis donc la secrétaire de l'association et je suis également monitrice éducatrice et j'interviens au domicile des enfants.
Et moi, je suis donc Sonia Laplace, je suis la trésorière de l'association, donc je donne un coup de main pendant les événements qu'on organise. Et aussi, parallèlement à ça, je suis praticienne en méditation de pleine conscience. Donc, c'est tout ce qui est travail d'attention avec les enfants. Voilà.
D'accord, très bien. Alors, donc, pour l'association J'existe, alors qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous un petit peu cette association.
Alors, l'association J'existe a été créée en 2017. On s'est rendu compte qu'en fait, sur Vernon, il n'y avait pas d'association qui venait en aide aux parents d'enfants autistes et aux enfants autistes. Donc du coup, on a décidé avec Sophie de la créer pour apporter une aide, que ce soit une aide administrative, mettre en place, enfin aider les parents à rédiger leur dossier MDPH, mettre en place des prises en charge à domicile et à l'école. Pour venir en aide aux enfants autistes et puis par la suite on a mis en place des cafés des parents et des formations tout ça sur Vernon donc voilà, notre association c'est ce qu'elle fait à l'heure actuelle.
Le but c'est vraiment d'aider toutes les familles qui ont un enfant autiste, c'est ça? Non,
c'est ça, ouais.
Et vous vous disiez que vous aviez un enfant autiste. Comment est-ce que vous avez pu réagir quand vous l'avez appris? Comment est-ce que vous avez même vécu avec tout ça? Parce que j'imagine que ça rajoute une responsabilité un peu en plus, une tâche un peu plus lourde.
Oui, alors moi quand j'ai appris le diagnostic de mon fils, enfin c'est moi qui ai découvert que mon fils avait un souci en fait. Je me disais il doit être autiste, donc du coup je suis allée vers un pédiatre pour voir si ce que je disais était cohérent ou pas. On m'a dit que non, il faut le laisser grandir, etc. Et donc je me suis orientée vers le CMP parce que je trouvais que mon fils n'était pas comme les autres, était différent. Et lorsque j'ai appris le diagnostic, effectivement, c'est vrai que c'est pas toujours facile à entendre. C'est difficile. On se demande quel sera l'avenir de l'enfant. Et nous, en tant que parents, comment le gérer? Et donc du coup, en fait, on n'est pas assez soutenu. Et c'est ça qui est très difficile parce qu'on ne sait pas vers où s'orienter, quels sont les bons professionnels, que faire. Et au fur et à mesure, avec mes petites recherches, chercher sur Internet, essayer de contacter d'autres parents qui ont la même situation que moi. Et au fur et à mesure, c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de créer cette association justement pour que les parents puissent directement avoir accès au nom des professionnels et ne pas perdre de temps surtout.
Oui, pour qu'ils aient des réponses immédiatement.
Exactement, apporter des réponses immédiatement parce que quand on apprend que l'enfant est autiste, surtout dans les débuts, donc à ses 3-4 ans, c'est là qu'il faut mettre le pactole, comme on dit. Il faut vraiment mettre en place les prises en charge. Et si on perd du temps, qu'on commence à mettre les prises en charge vers 6, 7, 8 ans, l'enfant, entre guillemets, a moins de chances d'évoluer, de mieux évoluer qu'un enfant qui a commencé une prise en charge précoce, de 3 ans.
C'est ça, il faut vraiment les prendre en charge très jeunes, parce que sinon, comment ça se passe au niveau de l'évolution intellectuelle? Comment ça se passe? Qui se passerait mal?
En fait, c'est tout ce qui est au niveau communication, sociabilisation, tout ce qui est... dans l'environnement naturel, l'enfant, quand il est pris en charge tardivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que le cerveau aussi se développe. C'est un peu plus compliqué que quand c'est pris tout bébé.
Et puis ce sont des enfants qui sont parfois victimes de harcèlement parce qu'ils sont différents. Donc ça les isole encore plus de la société, enfin au niveau de la scolarité. Ils ont de plus en plus de mal à y aller parfois parce que justement ils sentent qu'ils ne sont pas acceptés tels qu'ils sont. Et du coup ça renforce, enfin moi c'est mon point de vue, j'ai l'impression que ça renforce encore plus la problématique.
C'est ce qu'on a de l'extérieur quand on connaît très peu le monde des enfants autistes ou quoi que ce soit. On se dit, généralement à l'école, on dit souvent les enfants sont cruels. Ils ne le font pas forcément exprès, mais ils ont quand même des propos très méchants.
Tout à fait.
Oui.
Et vous, au niveau de votre expérience du coup, avec votre enfant, vous l'avez su à peu près à quel âge ?
Alors moi, j'ai commencé à voir qu'il avait des petites choses différentes, enfin, qui ne se comportait pas comme un enfant normal, dit normal, vers ses 18 mois. J'ai commencé à voir ça vers un an et demi. Et le temps que je confirme la chose, le diagnostic a été mis est tombé vers ses 2 ans et demi, 3 ans.
Donc quand même assez jeune, assez tôt.
Oui, assez tôt.
Et aujourd'hui, il a quel âge ?
Aujourd'hui, il a 11 ans. Il est scolarisé, donc il est en CM2.
D'accord.
Et l'année prochaine, justement, on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est compliqué. Je ne le vois pas au collège.
Oui, c'est ça.
Dans un collège ordinaire, en gros, avec les autres enfants. Donc, pour moi, ce sera une orientation Ulysse.
Oui.
Mais c'est une bataille aussi administrative encore auprès de la MDPH pour pouvoir faire valoir les droits de l'enfant. Et puis... faire en sorte qu'il soit admis en Ulysse. Là, on m'a fait un premier refus auquel j'ai fait un recours. Et du coup, au mois de janvier, je vais devoir refaire une demande d'Ulysse pour qu'il puisse être accepté, parce que c'est, on va dire, c'est la seule solution que j'ai pu trouver pour lui, parce que l'IME, pour moi, c'est pas quelque chose qui lui convient. C'est pas adapté à son handicap. Et du coup, il reste plus que l'Ulysse, ou alors l'école à la maison. Mais
l'école à la maison, c'est pas le plus idéal non plus.
Non, c'est pas le plus idéal, parce que ça demande un investissement, un gros investissement, et surtout que j'ai deux autres filles plus petites que il a deux autres petites sœurs, et il faut gérer tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué.
Vous disiez qu'il était en CM2 et on parlait juste avant de harcèlement à l'école. Vous avez eu des retours là-dessus, vous ?
Alors moi, j'ai eu de la chance de voir par rapport à mon fils, ça s'est très bien passé. Sa scolarité s'est très bien passée. Il n'a pas eu de cas de harcèlement ou autre. Au contraire, les enfants étaient quand même très protecteurs vis-à-vis de lui.
Ouais.
Après, peut-être pour d'autres enfants, peut-être moins, mais en tout cas, par rapport à mon fils, en tout cas, ça va, ça s'est bien passé. Et justement, par rapport au collège, c'est là dont j'ai peur aussi.
Oui.
Je me dis, ne pas le mettre en collège ordinaire, parce que les enfants sont plus crus au collège qu'en primaire.
Oui, ils vont un peu plus loin.
Voilà.
Et pour vous, Sophie et Sonia, comment est-ce que vous vous êtes retrouvées dans cette association ? Vous avez une expérience aussi personnelle avec l'autisme ?
Alors, moi, j'étais donc monitrice éducatrice en CESAD avant, donc c'est une structure qui accueille des enfants autistes, mais pas que. Et du coup, j'ai dû arrêter ce travail-là, mais en rencontrant ma messe qui a son enfant avec autisme, elle me racontait un peu ses déboires et que c'était très compliqué. Et voilà, et du coup, on s'est dit, ça serait bien qu'on s'associe pour faire quelque chose. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a créé l'association en 2017. Voilà.
Vous étiez à la base aussi en cofondatrice, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui.
Et pour vous, Sonia, comment est-ce que vous êtes retrouvée ici ?
Alors, moi, je suis arrivée un petit peu après, je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être 2 ans. Et au début, c'était vraiment pour donner un petit coup de main. C'était un moment où j'avais du temps à consacrer à quelque chose de nouveau. Donc, je suis de formation assistante sociale et j'ai travaillé dans des établissements. Donc, je connais aussi l'élève et toutes les problématiques liées à la scolarité. Donc, c'est vrai que ce n'était pas un sujet qui me paraissait... je trouvais que c'était une belle cause à défendre aussi. Et donc, donner ma participation. Puis, petit à petit... j'ai apprécié ce qui se faisait, donc au contraire, on apporte chacune nos compétences et puis l'association grandit. Et on aimerait aujourd'hui avoir un local, donc ça c'est notre grand cheval de bataille. Pour pouvoir accueillir encore plus de parents parce que j'ai envie de dire qu'on développe aussi des ateliers pour les enfants 10. Donc, il y a de plus en plus d'enfants 10. Et donc, tout ce qui est scolarité atypique, c'est vrai qu'on peut répondre à des questions. Et avec un local, on peut faire aussi un partage de compétences. Enfin, on peut rencontrer, les gens se rencontrent. Et c'est par les rencontres qu'on arrive à créer des choses. Tout seul, on n'arrive à rien, en fait. Et avoir un lieu, c'est aussi être ancré dans un endroit, quelque part à Vernon. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour l'association.
Alors, on a beaucoup parlé de ce mot, du coup, autisme. Mais du coup, qu'est-ce que c'est comme maladie? Comment est-ce qu'on comprend que notre enfant est autiste ou non?
En fait, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, souvent, on retrouve trois caractéristiques dans l'autisme. Donc, on retrouve l'isolement, des perturbations dans les interactions sociales et des troubles du langage, de la communication.
D'accord.
Et les intérêts restreints. Ça veut dire que les enfants ont très peu de centres d'intérêt. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'autisme. Après, il faut savoir qu'il y a... On part de l'autisme de haut niveau, qu'on appelle Asperger, et on en a... Il y a toute... comment dire?
En fait, chaque autiste est différent.
Ouais.
Et on ne trouvera pas un autiste pareil que l'autre. Ça va du l'autiste sévère à l'autiste, comme tu disais, haut niveau. Voilà, il y en a qui vont avoir le langage développé, d'autres non, d'autres qui vont avoir des centres d'intérêt, d'autres non. Enfin, c'est aléatoire.
Il n'y a pas aussi quelque chose aussi avec l'autisme, c'est par exemple quand on a, l'enfant a des vraies aptitudes sur quelque chose, il est vraiment très très fort, par exemple en maths ou en histoire ou quoi que ce soit.
Ça, c'est ce que relaient les médias, mais finalement, on n'en côtoie pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais finalement...
Après, ils peuvent avoir
c'est une croyance populaire, en tout cas.
Il y a vraiment des enfants avec autisme qui ont ce genre de facilité, voilà, mais c'est vraiment...
Je prends juste l'exemple de mon fils, après ouais. On va retomber dans les... où mon fils, il a l'oreille absolue, par exemple, au niveau de tout ce qui est... musical, on peut voilà reproduire, on va jouer une mélodie et il va la reproduire de suite après quoi.
D'accord.
Donc, il a une facilité au niveau de certains apprentissages, voilà.
Ouais.
Surtout quand ça concerne la musique.
Ouais, pour ton fils.
Oui, pour mon fils. Après, pour d'autres.
Oui, après ça
voilà.
Dépend.
Ça dépend, oui, voilà, c'est pas pour tous les autistes, voilà.
Alors, quelles actions du coup vous faites avec l'association alors?
Alors là, actuellement, alors on fait des formations, donc formation participative ABA. Donc c'est une formation qui va aider aux parents, aux AVS, aux enseignants, aux professionnels qui côtoient des enfants autistes à comprendre ce que c'est que l'autisme, ce que c'est que l'autisme, et aussi cette formation-là, ce sera plus sur les troubles du comportement. Comment gérer les troubles du comportement d'un enfant autiste, savoir pourquoi il a des troubles du comportement et savoir les gérer, tout simplement. Donc on a actuellement 4 dates qui sont prévues, donc le samedi 31 octobre 2020, le samedi 14 novembre 2020, le 19 décembre et le 16 janvier 2021.
D'accord.
Voilà.
Allez. C'est vraiment 4 dates comme ça pour la formation.
Oui, pour la formation, les personnes s'inscrivent et puis ils assistent aux 4 dates. Et ça se passe à l'espace Simone Veil, donc à Vernon.
D'accord. En attendant que vous ayez votre local.
Exactement. Et puis aussi, on fait des ateliers de soutien scolaire adapté pour les enfants dyslexiques, autistes. Donc du coup, c'est... troubles du déficit et de l'attention aussi, TDAH, et c'est pour les parents, les AESH, les enseignants, les éducateurs, et ça se passe, le premier atelier se passe le 7 novembre, et c'est pour apprendre aux parents, aux enseignants, etc., à savoir utiliser certains outils pour apprendre à l'enfant à apprendre...
Pour aider l'apprentissage scolaire.
Aux apprentissages scolaires, pardon.
Pour aider à la compréhension, à l'apprentissage, etc.
Voilà.
C'est vraiment axé sur le scolaire.
Sur le scolaire.
Alors que l'autre, c'est plus axé sur les troubles du comportement.
Sur la vie de tous les jours, un peu.
Voilà, c'est ça, au quotidien. C'est ça.
Et vous intervenez donc du coup uniquement auprès des parents ou est-ce que vous intervenez avec les enfants ?
Alors ça, c'est moi qui fais des prises en charge éducatives à domicile. Donc du coup, là, je travaille auprès des enfants. Donc on travaille en un pour un, donc je suis seule avec l'enfant. Les parents sont présents parce qu'ils apprennent aussi de cette prise en charge. Parce que, comme on disait, c'est un travail qui doit se faire au quotidien pour que ça fonctionne. Donc les parents vont être amenés à reproduire ce que je fais. Donc ils restent avec moi pour apprendre. Ça s'appelle de la guidance parentale. Et donc dans mon travail, je suis supervisée par une professionnelle de l'ABA. Donc l'ABA, c'est la science de l'analyse du comportement. Et donc c'est une science qui permet d'analyser le comportement et de trouver des solutions pour que l'enfant puisse vivre au mieux au sein de sa famille et dans son environnement social.
Comment ça se passe pour vous, ces sortes d'interventions auprès des élèves, enfin auprès des enfants, pardon, c'est pas trop compliqué pour réussir à capter leur attention, garder leur attention ?
Alors là, c'est ce que m'apporte l'analyse appliquée du comportement, justement, c'est que grâce à cette science, on apprend à découvrir les motivations de l'enfant. Donc en fait, grâce à des renforçateurs, donc on amène l'enfant à venir travailler avec nous pour accéder par la suite à quelque chose qu'il aime. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne très très bien.
Comment est-ce que ça s'est passé pour votre association toute la période de confinement ? Parce que j'imagine bien que les enfants autistes qui se sont retrouvés confinés, ils ont dû aussi mal vivre cette situation. Comment ça s'est passé ? Vous avez pu continuer d'intervenir ou différemment, j'imagine ?
Alors moi, j'ai pas pu continuer à intervenir. Donc par contre, j'appelais quotidiennement les familles pour savoir comment ça allait. Et c'était pas facile, en tout cas. C'est vrai que ça a été compliqué pour les familles. Enfin, pour les familles que je suivais, ça dépend. Parce que chez toi, ça allait.
Moi, c'était aléatoire.
Ouais, c'est ça.
Aléatoire. Il y a des fois où ça se passait bien. Il y a des fois où c'était un peu plus compliqué. Mais globalement, on va dire que oui, ça s'est, on va dire, bien passé. Et pour mais sinon oui, je prenais des nouvelles de certains parents où je savais qu'il y avait plus de difficultés au sein de la famille, au sein avec l'enfant, et notamment avec une maman où on s'envoyait des messages quotidiennement, vraiment quotidiennement, pour savoir comment ça allait, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, etc. Et puis donc du coup, j'ai apporté un soutien moral à cette maman et ça lui a fait du bien, voilà.
Est-ce que, parce que j'imagine que ce n'était pas très facile pour eux, les enfants autistes, de bien comprendre la situation pendant le confinement, est-ce que vous avez eu personnellement un problème à bien lui expliquer la situation ? Pourquoi est-ce qu'on était obligé de rester à la maison ?
Alors moi, mon fils, j'ai de la chance, il s'adapte très facilement aux situations. Donc, je n'ai pas vraiment eu ce problème-là, je lui ai expliqué, mais... comme voilà, à la maison, on continue à travailler quand même les compétences et le scolaire aussi quand même. Du coup, il s'adaptait à la situation et puis il n'y avait pas eu trop de problèmes. Mais non, j'ai pas trop été confrontée à ce problème-là par rapport à mon fils.
Est-ce que vous avez vu des familles avoir des problèmes comme ça, du coup ?
À part une maman avec qui je textotais, justement, comme je vous disais, non, pas vraiment.
Je pense que ce qui était vraiment dur, c'était de ne pas pouvoir sortir.
Oui.
Et que c'est des enfants qui ont besoin de pas mal bouger. Et
oui.
Du coup, le côté confinement, là, pour le coup, était... ça, c'était dur, en fait.
Oui, heureusement qu'on avait quand même l'autorisation de sortir, justement, avec les enfants qui sont en situation de handicap. Donc, moi, je le faisais. Je sortais avec mon fils pour prendre l'air.
Oui.
Voilà, donc, du coup...
L'aider à mieux vivre, la
voilà,
situation.
Voilà, exactement. Parce que c'est vrai que rester à la maison toute la journée... à travailler, faire des activités, regarder la télé, c'était... Voilà, au bout d'un moment, on tourne en rond et prendre l'air, ça faisait du bien.
Oui, c'est clair.
Ouais.
Et depuis le déconfinement, comment ça s'est passé pour toutes les reprises d'activités ? Vous n'avez pas eu trop de mal à reprendre, à aider comme ça ?
Non, alors justement, les parents étaient très contents que Sophie puisse reprendre les prises en charge. Donc du coup... ça leur a fait du bien. Les enfants, bon, je pense qu'ils ont eu du mal un petit peu à reprendre le rythme de l'école, le rythme des prises en charge. Mais là, en tout cas...
Comme tous les enfants, j'ai envie de dire. Oui.
Exactement.
Mais je pense qu'il y a même des adultes aussi qui ont eu du mal.
Ça. Oui, c'est ça, ouais. Mais non, là, ça a été. Globalement, ça a été, donc on est assez contents.
Tant mieux, alors.
Oui.
Tant mieux. On approche de la fin de l'émission, du coup. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre?
Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Association J'existe, tout simplement. Et sinon, on peut nous joindre par mail, donc asso.jexiste@gmail.com ou par téléphone au 06 16 58 73 74.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, Mamaz Bouachra, Sophie Chaïd et Sonia Laplace, d'être venues nous présenter cette association J'existe. Et on espère que vous trouverez assez vite un local quand même.
Oui, j'espère.
Oui.
On a fait passer le message là normalement.
J'espère qu'on va recevoir des appels. Hein, okay.
C'est pour ça que vous avez donné votre numéro, voilà. L'adresse mail, comme ça c'est bon.
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous donc d'être venu présenter l'association
J'existe. Merci à vous. Merci.
C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM et à la semaine prochaine.
BPM Vernon 99.3.